Vous écoutez un podcast que ni YouTube ni les articles 11 et 13 ne vous empêcheront d'écouter un jour. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 296, le dernier de la semaine, parce que nous sommes vendredi. Et aujourd'hui, si je parle des articles 11 et 13, eh ben, je fais bien sûr référence à la directive adaptant le droit d'auteur à l'heure du numérique, la directive européenne qui fait tant parler. Elle a été adoptée par le Parlement européen en septembre, après avoir été rejetée en juillet, elle doit repasser au vote encore en janvier prochain, puis être adaptée dans le droit national des pays, mais c'est vrai qu'elle est assez inquiétante. Moi j'en parle régulièrement avec mes étudiants, pour moi elle casse internet, voilà, tout simplement, c'est une connerie monumentale qui a été faite. Alors qu'est-ce qu'elle raconte, hein, finalement, ces articles 11 et 13? Alors ils ouvrent la création d'un droit voisin au droit d'auteur pour les éditeurs de presse. Autrement dit, je dois demander une autorisation pour faire un lien, ça remet en cause le droit à la citation, le droit de faire un lien, voilà, tout simplement. Je cite même le Figaro, carrément, allons-y. Même les quelques lignes extraites d'un article que l'on peut lire dans une recherche Google, un tweet ou un message Facebook seront protégées, et ce même si l'internaute ne clique pas sur le lien. Autrement dit, vous voulez faire un lien, il faudra demander au site vers lequel vous voulez faire un lien son autorisation que vous ayez le droit de faire un lien. Oui, c'est débile. Non, soyons clairs, c'est totalement débile. L'article 13, supprime donc ce droit aussi de citer des éléments, de reprendre des éléments. Alors, ça va faire disparaître beaucoup de choses, le bootleg, le remix, le montage vidéo, les émissions de type zapping, mais aussi finalement le classique même, vous pourrez pas reprendre un petit bout de vidéo, mettre une petite image dessus et diffuser ça sur les réseaux sociaux, puisque finalement vous tombez quelque part dans le giron de cet article 13. C'est pour moi un changement de paradigme assez important. Jusqu'à maintenant, et notamment la loi française est plutôt bien faite, hein, c'était un devoir de célérité. Si l'hébergeur a connaissance ou est alerté d'un contenu qui pose problème, il doit le supprimer au plus vite, et il peut être condamné s'il ne le fait pas au plus vite. Autrement dit, c'est si je mets sur mon site une vidéo qui appartient à je ne sais quelle grosse émission de télé, et que l'émission télé s'en rend compte, et ben si elle me demande de le supprimer, ou si elle demande à mon hébergeur de le supprimer, s'ils ne le font pas, je suis la passible. Mais par contre, l'hébergeur n'a pas à vérifier avant la publication si j'ai droit ou pas de mettre ce document. Or, avec l'article 13, et ben l'hébergeur devra contrôler tout ce qui est publié. Autrement dit, à l'entrée sur la plateforme, et ben ils doivent vérifier ce qui se passe dessus. Ce sont, je le dis clairement, deux articles qui sont totalement débiles, qui remettent en cause le cœur d'Internet. C'est pensé au profit des lobbies des industries culturelles et de la presse, mais ça se retournera contre eux, hein, soyons clairs. Je ne peux plus faire de lien vers eux, plus de Google News non plus, plus de vidéos virales avec des extraits de contenu. On peut même pas reprendre un bout d'émission et le diffuser sur les réseaux sociaux. Vous voyez des émissions comme On n'est pas couché qui fait son beurre de ce genre de truc. On n'est pas couché, c'est quoi? Ils font tout pour qu'il y ait des séquences qui soient choc, hein, avec des conneries qui soient les plus grosses possibles par les gens. Et donc ensuite, eh bien, il y a ces petits bouts de vidéos qui fuitent, etc., et qui diffusent. Si on était logique, théoriquement, les plateformes n'auraient pas le droit, hein, de diffuser ces bouts de séquences, tout simplement puisque ça appartient à l'émission. Et donc, si vous reprenez ça et que vous publiez vous de votre côté, etc., et qu'il y a un contrôle qui vous dit « Ah oui, non, ça appartient à telle ou telle personne », bah finalement, au bout d'un moment, ça va pas pouvoir faire buzz. On va dire, eux, ils pourraient diffuser leur truc, on pourrait peut-être leur diffuser, mais si vous reprenez la vidéo, vous la déplacez ailleurs, vous pourriez pas le faire, vous pourriez pas faire une vidéo qui rebondit dessus ni rien. Bref, hein, c'est très 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 couillon. La presse se réjouissait parce que la presse disait, oui, bah tiens, on va enfin pouvoir faire payer Google, pour Google News, etc., où ils nous emmerdent. Je vois pas en quoi Google News les emmerde, parce que tout simplement, Google News leur amène du trafic. J'imagine ce monde, ouais, où il y aurait plus Google News. Alors, l'Espagne l'a tenté, les médias forcément vont perdre en visibilité. Hein, vous allez aller voir un site ou deux que vous connaissez, si vous avez ce réflexe-là, mais sinon vous allez aller où? Et sur Facebook, là où les choses vont être partagées. Eux, ils voient pas trop le problème, parce que de toute façon, la citation, ils s'en foutent, mettre des liens vers les gens, ils s'en foutent. Je vous prends un exemple, il n'y a pas très longtemps, LCI a fait un article sur son site où il parle de foot, où il parle des contrats que les joueurs ont, et notamment des contrats d'éthique. Et il cite, alors il parlait du contrat d'éthique du PSG, et il cite un cas, c'est que Clermont, hein, le club de foot de Clermont, a un contrat d'éthique pour ses joueurs qui a été mis en place il y a déjà de longues années. Et en fait, pour comment ils le savent cette information-là, eh ben ils l'ont pris sur mon site à moi, Cybermounia, qu'ils citent très clairement avec un petit bout de citation, mais ils ne font aucun lien. Oui, bah c'est con, parce que chez moi, il y a l'article complet, il fera un lien pour leurs visiteurs, il les amènerait sur mon article où il y a l'article complet, et puis ils n'ont même pas besoin de me demander l'autorisation, puisque je leur donne l'autorisation, moi-même ça m'arrange pour mon référencement, mon SEO et compagnie. Non, c'est con, les médias sont ainsi, ils vous prennent un truc chez vous, mais ils ne citent pas, il faut surtout pas dire qu'ils ont trouvé l'information ailleurs, ou alors s'ils l'ont trouvé ailleurs et qu'ils le disent, il faut surtout pas faire un lien vers eux, vous rendez pas compte? Non mais vous rendez pas compte le budget incroyable que j'ai moi, petit créateur, avec mon contenu comme ça, je leur fais probablement de l'ombre. Bon, allez, soyons clairs, c'est un fonctionnement qui est complètement débile, qui, je pense, hein, il va falloir qu'on arrive à dégager quelques vieux dinosaures de toutes ces industries, des médias, de la presse, de l'industrie culturelle, pour arriver à construire ensuite quelque chose qui soit plus réel par rapport à ce qui se passe sur Internet, parce qu'Internet, ben oui, c'est du lien, je suis désolé, c'est du lien. L'hyperlien, le HTTP, etc., c'est du lien, voilà, si on peut plus faire de lien, ben on n'a plus d'Internet, et c'est là où on pourrait dire, bon, bah YouTube se lance dans une campagne de, comment ça s'appelle, de sauvetage d'Internet, hein. Ils ont fait une jolie page, Save Your Internet, ils ont fait une campagne, votre chaîne YouTube va disparaître, on pourrait dire, tiens, c'est une bonne idée, parce que dit YouTube sur sa page, ils disent, bien que nous soutenions les objectifs de l'article 13, nous pensons que celui-ci, dans sa version actuelle, pourra avoir des effets pervers importants, susceptibles de bouleverser la face du web telle que nous le connaissons. Alors, ils ont envoyé des messages aux créateurs, mobilisé les gros créateurs, y compris dans le monde entier, et à chaque fois que vous partagez une vidéo, par exemple, vers leur bouton de partage, je le fais régulièrement sur Twitter, la plateforme vous propose, par exemple, des petits tweets, hein, contre cet article 13. Alors, ils ont mobilisé, hein, je dis, il y a des youtubeurs américains, ils ont dit, bah, si vous faites une vidéo sur l'article 13, on vous la repoussera, on la montrera à plus de monde, donc ils mobilisent les créateurs, ils ont envoyé des messages aux créateurs en disant, on peut faire disparaître votre page. Si l'article 13 passe, on va faire disparaître votre chaîne. Attention. Alors l'objectif est bien sûr de faire une campagne massive qui va inquiéter ceux qui passent leur temps sur YouTube. Notamment, on pourrait dire que je pense qu'il n'y a pas un collégien ou un lycéen français et européen qui n'a pas vu, qui n'a pas été sensibilisé par ce moyen-là, pas notamment par ces vidéos de gens qui regardent en permanence, qui vont leur dire ça. Et c'est bien le but de faire une pression, c'est-à-dire que il y a un moment donné, ils se disent, on va faire défendre YouTube par notre public. Alors bien entendu, je pense que c'est aussi un beau foutage de gueule de la part de Google et de YouTube, parce que finalement, ils ont déjà leur article 13 en eux. C'est le Content ID, c'est le système qui vous flag et vous strike quand vous utilisez quelques secondes d'un contenu déclaré par un ayant droit. Alors, certains épisodes publiés en vidéo sur YouTube, certains épisodes de ce podcast, hein, que je publie en vidéo sur YouTube, l'ont été car j'avais utilisé une musique, alors une fois ou deux, hein, vous voyez, c'est une musique de Dutron un matin et puis un Joyeux Noël une fois, je crois, quelque chose comme ça, et ben les quelques secondes de début de fin, même si c'est 10 secondes sur 50 minutes de vidéo à l'époque, et ben je me suis pris un strike, je me suis aussi pris des strikes pour Cybermounia par exemple, parce que l'on entendait dans un reportage que j'avais fait la musique dans un lieu public, et la musique donc on l'entendait derrière, et l'ayant droit qui possède les droits de la musique avait déclaré très clairement que sa musique était à lui. Et là où je dis que c'est finalement une grosse connerie, c'est que pour YouTube cela ne change pas grand chose. En fait, le Content ID, il embête probablement surtout les petits, pas trop les gros. L'article 13 va embêter tout le monde. C'est-à-dire que les gros youtubeurs négociaient, géraient les droits via les MCN, hein, vous savez, c'est ces intermédiaires qui monétisent et qui leur permettent de mieux gérer les droits. Donc, ça va les embêter maintenant eux aussi par ce biais-là, hein, les gros créateurs. Mais en fait, là où je dis que ça ne change pas grand-chose, c'est que YouTube pourrait revoir le fonctionnement de son Content ID et avoir un Content ID qui soit plus respectueux des choses. Là, il y a franchement un truc qui est pas normal, c'est-à-dire qu'il y a des maisons de production qui profitent de Content ID pour s'approprier votre boulot. Parce que qu'est-ce qui se passe avec Content ID, c'est que si vous mettez une vidéo sur votre chaîne et que vous mettez un petit contenu qui est déclaré par quelqu'un d'autre, et ben c'est l'ayant droit qui récupère les droits publicitaires, qui récupère vos vues, enfin il y a plusieurs systèmes, et en fait on se rend compte qu'il y a vraiment des abus dans ce qui est déclaré dans le Content ID. Je me suis par exemple pris des musiques en Creative Commons, donc musique Creative Commons c'est l'auteur qui donne, qui dit vous avez le droit d'utiliser ma musique contre une citation. J'ai vu que ces musiques là ont été, certaines que j'ai utilisées dans mes vidéos, ont été reprises, ont été déclarées par un ayant droit, et donc moi j'utilise une musique qui est mise en Creative Commons par l'auteur, et bien finalement quelqu'un l'a réclamé ailleurs. Là où c'est dégueulasse, c'est parce que finalement c'est pas le créateur initial qui le fait, parce que lui, dès le départ, il l'autorise à ce que sa musique soit utilisée, parce que ça lui permet de se faire connaître, etc. Et c'est sa volonté aussi de faire connaître son travail. Mais c'est un abus vraiment de la plateforme, et YouTube devrait sanctionner ce genre d'abus de la plateforme, de même qu'il devrait sanctionner quand il y a que 5-6 secondes qui sont réclamées. On devrait avoir du fair use à l'américaine. Vous voyez, voilà, si les députés européens voulaient vraiment travailler là-dessus, ils pourraient déclarer un droit à la citation de quelques secondes et mettre vraiment des vrais critères. YouTube pourrait revoir son système et mettre des vrais critères, vraiment regarder comment ça fonctionne, et pas nous mettre ce système un petit peu comme ça qui est débile. Il y aurait d'autres choses, hein, par exemple. Imaginons, je reprends une musique classique, hein, pour mettre en générique d'une vidéo ou quoi que ce soit, mais quelque part, un éditeur type Sony, BMG ou je sais pas quoi, vous savez, ceux qui sont, ils font beaucoup de reproductions des œuvres classiques jouées par des grands orchestres, et c'est normal. Alors, leur travail de l'orchestre joue du Beethoven, normal. Le travail de ce que fait cet orchestre et la reproduction de ce que fait cet orchestre est protégé par le copyright. Normal, il n'y a pas de souci, mais la musique de Beethoven, elle est dans le domaine public, parce que Beethoven a écrit ça il y a des dizaines et des dizaines d'années, on parle de siècles. Et ben, qu'est-ce qui va se passer, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Et ben, si on écoute l'article 13, le content ID, etc., il se pourrait bien tout simplement que la signature musicale de Beethoven, et ben, elle soit appropriée par une grosse maison de disques, et que finalement, je ne puisse même pas l'utiliser. Et c'est là où on a vraiment un problème là-dessus. C'est un truc qui, pour moi, est insoluble, et... En fait, l'article 11 notamment, alors les éditeurs de presse sont super heureux, moi je pense que ça va se retourner contre eux, l'article 11 et 13 va se retourner contre l'industrie culturelle, je pense que YouTube, ils ont raison quelque part de dire, on va mobiliser les gens contre ces articles, mais ils sont pas très clean non plus dans leur fonctionnement, il ferait mieux de regarder leur fonctionnement à eux, mais en fait, là où je voulais en venir... pour au final de cet épisode, c'est que c'est un bon rappel. Nous sommes dépendants de ces plateformes. Hein, si YouTube a envie de, ils l'ont dit, votre chaîne YouTube, on va devoir la supprimer. Oh là là, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de l'article 13, on va devoir la supprimer. Ils peuvent faire disparaître votre business. Pas seulement avec cette loi, en fait, ils peuvent faire disparaître votre business à n'importe quel moment. L'article 13 ne va pas les obliger à faire disparaître votre business. Non, ils peuvent le faire à tout moment. Et ils peuvent le faire disparaître à tout moment. Là, aujourd'hui, là, sans cet article-là, ils peuvent appuyer sur un bouton et vous dire « Non, vos vidéos, là, ça va pas. Pam, au revoir. » Ils peuvent le faire disparaître vraiment à tout moment. En supprimant votre contenu, si vous enfreignez les règles que eux ont fixées, c'est une société privée qui a ses propres règles, vous enfreignez leurs règles, ils peuvent vous virer. Vous avez... Essayez pas de porter plainte contre eux, hein, ça va pas changer grand chose. Ils peuvent aussi vous faire disparaître, vous rayer la carte en changeant tout simplement les algorithmes. C'est valable pour YouTube, mais c'est valable pour tous ces outils. Je vous rappelle mon épisode 126, on ne construit pas tout son business dans le jardin d'un autre, ou comment Facebook avait rayé de la carte des pages avec des millions de fans, tout simplement des millions de fans, et gérés par des gens qui travaillaient dessus, par de, je sais pas, il y avait 20, 30 ou 40 personnes dans les sociétés. Ils l'ont fait en une nuit, ils ont rayé ces pages Facebook en une nuit. C'est un très bon rappel, vraiment très bon rappel, merci Google de rappeler cette évidence, qu'il ne faut pas tout mettre son business chez eux, c'est-à-dire que quelque part, il faut trouver des diversifications, c'est ce qui vous explique notamment que bon les youtubeurs hein, diversifient tous, ils font des bouquins, des spectacles, des livres, des fois des formations, des choses comme ça, ce sont des très bonnes plateformes pour diffuser, pour se faire connaître, pour essayer de trouver de l'audience, pour diffuser vraiment facilement son contenu, bah, soyons clairs, imaginez le coût que ça vous coûterait si franchement il n'y avait pas YouTube, ça c'est clair, mais n'oubliez pas quand même que quelque part, eh ben, on est fortement dépendant d'eux, c'est pour ça qu'il faut enlever la dépendance, il faut réduire cette dépendance, il faut faire en sorte que des gens qui vous connaissent puissent vous suivre ailleurs, c'est pour ça que l'intérêt des blogs, des sites qui nous appartiennent à nous, de la newsletter où on a le contact, je vous ai parlé d'Inbound Marketing, vous avez des fans sur votre page Facebook, comment vous pourrez récupérer les adresses mail de ces fans pour les recontacter par ailleurs si vous en avez besoin un jour? C'est un véritable enjeu. Comment vous pouvez inciter des gens qui vous suivent sur YouTube à aussi vous suivre sur votre blog, mais aussi vous suivre par newsletter, parce que comme ça, vous pouvez les recontacter. C'est un véritable enjeu. Comment vous pouvez diversifier les sources de contact, les moyens de contacter les gens? C'est un véritable enjeu. Merci Google, merci YouTube de nous l'avoir rappelé. Merci la Commission européenne de nous rappeler aussi quelque part et ben que... il faut aussi finalement se méfier un petit peu de ça. Ben, en fait, non, je devrais pas les remercier parce que c'est une grosse bouse qu'ils nous ont fait. Mais voilà, ça m'énerve un petit peu. Vous voyez, ce matin, je voulais pas m'énerver. Et finalement, ce sujet-là m'énerve, mais je trouve vraiment, vous voyez, là c'est du temps perdu quoi. Sincèrement, c'est du temps perdu. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le temps de travail, les milliers d'heures des lobbies, des députés européens et puis après des députés français, etc. qui vont faire ça. Et en plus, ils vont voter ça. Vous savez, les députés français vont voter ça dans une espèce de avec un grand sourire en disant oui, mais de toute façon on est obligé de le faire, c'est l'Europe qui nous impose de le faire. Et en fait, ils ne verront jamais le problème que ça a posé, parce que tout simplement, il y a à peu près, il y a eu des stats qui sont passés il y a pas longtemps. On va considérer quoi? Il y a 20% des députés français qui sont vraiment sensibilisés aux enjeux du numérique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et je pense qu'au niveau européen, on n'a pas beaucoup plus de députés qui sont vraiment sensibilisés aux enjeux du numérique. Ça, c'est un vrai problème. Il est temps, quelque part, je pense, que notre société finisse sa mue numérique, parce que finalement, Internet est là depuis plus de 20 ans, mais notre mue numérique n'est pas faite. Il y a un vrai boulot là-dessus. Mais ça sera l'objet d'un autre sujet. En attendant, rappelez-vous, on ne construit pas tout son business dans le jardin d'un autre, on diversifie ses sources pour être vu, entendu, lu, etc. On essaye de récupérer les contacts quand on les peut, on essaye de gérer son écosystème dans sa globalité et on construit comme ça quelque part une présence plus globale. Voilà, c'est tout pour cette semaine hein, d'épisode. C'est une semaine qui a été riche. Petit retour, allez, tant que j'y pense, la semaine dernière j'ai fait une semaine spéciale WordPress, on avait fait l'épisode spécial WordPress 5. On avait dit hein, que WordPress 5 ne sortirait pas avant janvier parce que c'est ce qu'ils avaient commencé à annoncer, et WordPress 5 est sorti hier soir hein, pour nous heure française. J'ai fait la mise à jour à 23h, j'ai appuyé sur le bouton mise à jour de votre coach web. Bon, il y a rien qui s'est passé chez moi hein. tout s'est bien passé. Gutenberg s'est installé, mais je l'avais déjà Gutenberg, donc c'est pas un problème. Ils m'ont désactivé l'ancien plugin Gutenberg parce que maintenant il n'y a plus besoin du plugin. Tout marche, j'ai même trouvé que mon site était plus rapide, vous voyez, ça fait un petit peu de ménage. L'interface ne change pas, franchement ça n'a rien changé, rien cassé sur mon thème, aucun souci de mon côté. Si vous avez des thèmes récents, des plugins récents, un WordPress que vous mettez bien à jour depuis au fur et à mesure du temps, franchement, pour moi, ça c'est pas une mise à jour vraiment très risquée, mais n'oubliez pas de faire vos sauvegardes, voilà. Je voulais refaire cette précision parce que c'est important de le dire. Ils ont avancé hein, un petit peu, ils ont vraiment, vraiment beaucoup avancé des dates de mise à jour. Ça va casser, faites attention si vous avez du WooCommerce, etc., de bien faire d'abord toutes les mises à jour des plugins. Sinon, ça risque de ne pas passer, voilà. Mais en général, il y a certains plugins qui ont mis des belles alertes. J'ai vu aussi que les constructeurs de thèmes, de Jardivi, vous savez, thèmes avec des gros éditeurs de pour éditer votre page avec des genre Elementor, etc., dont on a parlé dans l'épisode, et eux n'étaient pas forcément tous prêts. Bah oui, parce que certains s'étaient dit, on a un petit peu de temps et on va pas sortir notre version. Et oui, et eux, certains ne sont peut-être pas prêts. C'est là où il peut y avoir de la casse. Mais si vous avez un WordPress très classique, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très 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 bon week-end, et je vous dis à lundi pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les créateurs.